Bonjour à tous et bienvenue sur Comic Stories pour le numéro 2 de notre podcast, une histoire de niveau 7. Je suis Mathieu et j'aurai la difficile tâche aujourd'hui de mener cette émission à bon port, puisque vous allez voir que les trois chroniqueurs qui m'accompagnent sont particulièrement en forme. On commence avec Elvire.
Bonjour.
Et bien sûr Arnaud.
Bonjour.
Et celui qui nous a fait faux bond la dernière fois, qui cette fois est là mais n'a pas bossé, c'est mieux, on verra la prochaine fois s'il sera complètement prêt. Clément.
Bonjour.
Alors Clément, présente-toi un petit peu aux auditeurs.
Je suis un pro d'ici, d'ici c'est la meilleure, Marvel ça pue.
Vas-y, mets-toi la moitié du public à dos, c'est bien, t'as raison.
Ouais, c'est bien, ouais, t'as vu ça. Non, je lis en majorité de la VO, sauf quelques titres en VF, pour ce qui est notamment des sorties librairies urbaines. Je suis un grand fanat de Batman. J'aime beaucoup aussi Superman et j'ai un peu de mal avec Marvel quand même. J'expliquerai peut-être pourquoi j'en aurai peut-être l'occasion, même s'il y a certains personnages que j'apprécie. Et sinon, je suis un peu gros, un peu taré dans ma tête.
Voilà, donc ça vous aurez tout le loisir de le découvrir.
Ouais.
Je pense dès aujourd'hui. avec cette émission, donc une histoire de niveau 7, je pense qu'avec le titre, vous avez compris de quoi on va parler. De quoi on va parler justement, Arnaud ?
Alors bah, d'abord on va reprendre la même formule que la dernière fois. Donc on va d'abord commencer par le Comics Corner, où l'on fera un tour des dernières sorties, quelques critiques, dont celle de Daredevil End of Days. Ensuite on passera au format sestiaire, où l'on débattra bien sûr sur le pilote d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui a été diffusé mardi dernier. Et on terminera par le coin des Padawan, où nous allons attaquer le premier dossier sur les éditeurs américains importants. Et donc, pour découvrir par quel éditeur on va commencer, restez jusqu'à la fin de l'émission.
Teasing, teasing. Allez, on commence sans tarder avec le Comics Corner. Le Comics Corner avec un programme assez chargé. On va commencer tout de suite avec la sélection des sorties des deux dernières semaines. Sélection entièrement en VF aujourd'hui, pas de titre VO. Je vais commencer avec Sin City. Sin City, la série culte de Frank Miller, qui est déjà sortie plusieurs fois en France. C'est pas quelque chose d'inédit, mais elle est republiée entièrement dans une toute nouvelle édition, couverture rigide, assez luxueuse, assez bien foutue, avec de toutes nouvelles illustrations de couverture par Frank Miller lui-même, bien sûr. C'est sorti chez Rackham, chaque tome coûte 20€, la série compte 7 tomes. Il faudra attendre février 2014 pour avoir les deux suivants, et après on en aura un tous les deux mois. Autre sortie importante chez Delcourt, donc sous le label Comics Fabric, on en parlait la dernière fois dans le coin des Padawan, au niveau des French Comics. Badass, le tome 2 est sorti. Le tome 2 s'intitule The Voice. Rien à voir avec l'émission de Nikos. Il est toujours fait par Eric Hanna, Bruno Bessadi et Gaëtan Georges. Au niveau de l'humour, des dialogues, c'est toujours aussi percutant. C'est complètement irrévérencieux. Je pense, Clément, que tu adorerais certaines répliques de ce comics.
Tout de suite, les grands mots.
Beaucoup de références aux comics US, qui sont tous un peu pastichés, tous les personnages y passent. Le seul problème que j'ai eu avec ce tome, c'est que ça manque de lien avec le premier. On avait un personnage qui était assez sympa, Dead End, et on le retrouve presque pas ici. Il sert juste de faire valoir à The Voice, la personnage central de ce numéro. Voilà, donc c'est dommage pour une série juste en 3 tomes de passer comme ça du coq à l'âne sans vraiment faire de lien. Par contre, c'est toujours un super moment et j'ai hâte d'être en 2014 pour voir la fin de cette trilogie. Chez Urban Comics, cette fois, 2 titres. Donc le premier, Saga, tome 2, par Brian Kevogan et Fiona Staples. Donc le deuxième tome de la série qui sort chez Image Comics aux USA. Toujours aussi passionnant, on découvre cette fois des éléments du passé de Alana et Marco, les deux fugitifs amoureux. On retrouve aussi des nouveaux personnages qui viennent enrichir encore un peu l'univers. Alors c'est déjà très riche et là on trouve vraiment, on a de plus en plus de background, c'est vraiment agréable. Fiona Staples, elle est vraiment elle est merveilleuse. Les planches sont vraiment fabuleuses. Si on met à part l'espèce de géant aux testicules purulentes surdéveloppées, mais bon.
J'aime beaucoup.
Ouais, bah j'en doutais. la série, c'est la série événement de l'année, Saga. Elle a raflé de nombreux prix, parmi les plus prestigieux, plusieurs Eisner, plusieurs Harvey Awards, donc vraiment l'équivalent des Oscars, des comics. Et vraiment, elle les a pas volés. C'est un titre immanquable, mais alors peut-être pas aussi immanquable que Punk Rock Jesus, aussi chez Urban Comics, scénarisé et illustré par Sean Murphy. Alors, beaucoup de personnes disent que c'est la meilleure mini-série de l'année. C'est sorti chez Vertigo fin 2012, début 2013. Donc Vertigo, c'est une branche de DC qui se charge de projets un peu plus indépendants. Donc l'histoire se situe quelques années dans le futur. Le clonage humain a bien sûr progressé et des scientifiques ont réussi à cloner Jésus à partir d'une relique, le Saint-Suaire.
Et c'est moi, bien sûr.
Évidemment. Autour de ce clone, qui a pour objectif de devenir le messie des temps modernes pour les producteurs, il y a toute une émission de télé-réalité qui se met en place et on va suivre sa vie en temps réel, et y compris le casting de sa mère, parce qu'il faut quand même la Vierge Marie moderne. Donc une vierge sera castée. Et c'est une histoire qui est vraiment excellente, vraiment riche. Il y a une vraie réflexion sur la religion, sur le libre arbitre, notamment la question, voilà, est-ce que ce petit gamin-là, il est vraiment prédestiné à devenir Jésus ou pas? Est-ce que son libre arbitre va se mettre en route à un moment et que tout va partir en vrille? Vous en doutez un petit peu. Les scénarios, les dialogues, les personnages, c'est super riche. On n'est vraiment pas loin de la perfection. Le buzz autour de ce titre était vraiment, vraiment justifié. Graphiquement, c'est en noir et blanc. Ça pourra peut-être en déranger certains. Moi, j'ai adoré. C'est super. Sean Murphy, voilà, qui a déjà fait Joe l'aventure intérieure, c'était déjà très beau. Mais alors là, il déchire tout, vraiment. Clément, tu as quelque chose que tu as lu, je crois?
Ouais, enfin, lu il y a longtemps, mais qui est ressorti là en VF, c'est Superman Red Son, donc sorti le 20 septembre 2013 pour le prix de 15 €, qui est très très connu dans la mesure où il a été écrit par Mike Mylar et les dessins de Dave Johnson. Donc c'est ce qu'on appelle un Elseworld. Donc j'imagine, est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Oui?
Bah moi oui, je sais pas si
ouais,
elle vient.
Tu sais.
Moi
je sais
non.
Pas. Un Elseworld, c'est une histoire à part de la continuité, on va dire. C'est globalement ça. C'est quelque chose à part. Donc là, le speech est très bref. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé si Kal-El, enfin oui, Kal-El Superman serait arrivé non pas aux États-Unis, mais en URSS, pour vous donner une idée. Et donc il est Urban l'a réédité. Il était édité autrefois chez Panini Comics. Donc l'édition était pas trop mal, enfin, du Panini. Fait 176 pages et c'est dans la collection DC Deluxe. Et évidemment, hein, c'est du très bon, comme c'est du Mylar. Qu'on aime ou on n'aime pas, ça reste un indispensable pour les fans de Superman et puis aussi pour les grands amateurs de comics.
Ouais, ouais, moi j'avais l'occasion de le lire aussi, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est une des meilleures histoires de
ouais.
Superman, vraiment.
Exactement, ouais.
En parlant d'une des meilleures histoires sur un personnage, il y en a une autre qui est sortie, on vous en a parlé dans la première émission, Daredevil End of Days, le tome 1 chez Panini. Vous avez pu lire sur le site l'interview de David Mack. Si c'est pas le cas, foncez parce qu'elle est vraiment intéressante. Et donc, certains d'entre vous l'ont lu, Arnaud, Elvire, je crois. Enfin, Arnaud, tu l'as
oui.
Pas terminé, mais bon, t'as une bonne idée
voilà,
déjà.
Voilà, je l'ai commencé.
Donc petit rappel de l'histoire, Daredevil est mort, il a été tué par Bullseye en pleine rue, sous le regard des passants, et il a prononcé un mot assez mystérieux juste avant de mourir, Mappon. Et donc Ben Urich, journaliste, va enquêter sur les derniers jours de Daredevil, et sur ce mot mystérieux, savoir ce que ça veut dire. Allez, on va commencer par Elvire, qu'est-ce que tu as pensé de cette lecture ?
Oula, moi ça va pas être très, peut-être très intuitif comme avis, parce que bah, c'est le... un des premiers comics que je lis à part The Walking Dead. Donc moi, ce serait plus... je trouve que les dessins sont pas du tout les mêmes de ce que j'ai pu parcourir dans l'univers des comics. Et moi, ça m'a plutôt attiré le style de dessin qui est... Bah, avec Arnaud qui, par exemple, a dit m'a pas du tout aimé, donc je suppose que c'est assez différent de ce qu'on trouve d'habitude. Non, Arnaud ?
Ça dépend des dessinateurs. Mais moi, j'ai plutôt tendance à préférer les dessins qui s'approchent de la réalité. Là, j'ai trouvé que les dessins avaient un côté brouillon, si tu vois ce que je veux dire. On voit bien les coups de crayon et les décors ou les personnages.
C'est voulu.
Pas... Bah, je sais que c'est voulu, mais c'est un style qui ne me plaît pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas aimé les dessins.
Je l'ai zioté vite fait quand même. Enfin, du coup, je l'ai pas lu, mais j'ai quand même zioté les dessins par curiosité. C'est vrai que c'est un style très particulier, mais après ça dépend du récit. Mais en fonction du récit, là, d'après ce que vous avez dit, ça peut être pas mal en fonction du récit. En fait, je pense que le dessin va s'adapter. C'est enfin ça forme un tout. Il y a le dessin est complémentaire du récit, puis là le dessin, la manière dont c'est dessiné peut peut-être servir le récit. Et enfin moi j'aime ce style de dessin, c'est assez particulier. Puis il y a le dessinateur, mais il y a aussi le coloriste. Et forcément ça a un impact dessus. Le coloriste a l'air quand même d'avoir fait un boulot assez difficile sur ce dessin qui est quand même très particulier.
Donc juste pour présenter quand même l'équipe qui est autour de ce projet, donc le scénario est de Brian Michael Bendis et David Mack, et les dessins justement de Klaus Janson, David Mack et Alex Maliff. Les cinq, c'est des légendes, hein, sur Daredevil, ils ont beaucoup bossé sur le personnage et c'est un peu l'équipe All-Star qui s'est retrouvée pour faire cette histoire.
Mais moi je suis d'accord avec Clément, c'est peut-être ça qui m'a aidé à rentrer vraiment dans, parce que je suis rentrée vraiment dans l'histoire, j'ai bien envie de l'acheter, d'acheter la suite. C'est peut-être parce que ça collait à la réalité, donc j'étais pas, on va dire,
Moi, pas
effrayée
du
par quelque chose de totalement différent de ce que j'ai l'habitude de lire. J'avais vraiment oui, ça collait vraiment à la réalité. Et il y a aussi des doubles pages où là on est dans une sorte de, bah, les dessins sont spéciaux dans ces doubles pages, c'est un petit peu comme une sorte de rêve, de songe,
Alors, tu parles certainement des doubles pages, justement, qui sont faites par David Mack. Il y en a une avec Elektra, notamment.
Ouais, des sortes de flashbacks.
Qui mélange un peu plusieurs images, donc des techniques de collage et tout qui sont utilisées par David Mack. Moi je les trouve juste magnifiques, mais après c'est vrai que c'est. Je peux comprendre voilà, ceux qui disent que les dessins sont un peu dérangeants. C'est vrai que c'est. Ça va droit au but en fait. Il n'y a pas de fioritures, on repasse pas, c'est voilà, ça va droit au but, c'est.
C'est brut, voilà.
Ouais, c'est vraiment brut et enfin, pour moi ça retranscrit vraiment bien. L'ambiance de l'histoire qui est quand même super sombre, super violente, voire même parfois limite glauque, et je trouve que les dessins
Oui.
vont bien avec ça, quoi.
Oui, ils peuvent paraître confus, mais en même temps, l'histoire est confus. On est dans la confusion dans l'histoire aussi. Donc, oui, moi, je trouve que ça matche bien le scénario et comment dire, les dessins. Donc,
C'est vrai qu'on est un peu dans la confusion, bah, comme Ben Urich, quoi. On avance un peu en même temps que lui. On essaie un peu aussi, nous, de reconstituer le puzzle et enfin, vous verrez avec le deuxième tome qu'on est loin d'être au bout de nos surprises.
Par contre, j'ai pas aimé les dessins, comme je l'ai dit, mais j'ai beaucoup aimé le découpage des pages. Enfin, quand il y a pas il y a beaucoup de doubles pages, mais aussi souvent ce sont des petites cases, et du coup ça donne un rythme assez, comment,
Bah, c'est rapide.
voilà, ça donne un rythme rapide à l'histoire, et ce découpage-là, justement, j'ai beaucoup aimé.
Bah, le
Mais
découpage est super intelligent. On peut passer d'une
ouais.
page avec plein de petites cases et la page suivante, ça va être
Une
juste
double
trois
page,
grandes
ouais.
bandes ou voilà une double page et du coup les variations de
Ça,
rythme sont
j'ai
vraiment
beaucoup aimé.
ouais.
Mais après,
Mais
ça,
par
pour
contre.
des gens qui n'ont pas l'habitude comme moi, à un moment, j'étais perdue sur les doubles pages où c'était en ligne. Je ne trouvais plus le sens, en fait. Je ne savais pas si je devais rester sur une page et lire de gauche à droite ou alors faire les doubles pages et lire toute la ligne. Bon, après, j'ai compris parce que je suis pas totalement débile. Mais sur le coup, ça m'a un peu y a ça qui m'a un peu perturbée.
C'est vrai qu'il y a des pages qui sont un peu perturbantes. Parce que, comme en plus, les dialogues ne sont pas complets, on a des morceaux de dialogue sur certaines pages. Donc tu sais pas s'il faut commencer, enfin, s'il faut lire en ligne ou s'il faut lire d'abord la page de gauche, puis la page de droite. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas totalement clair au départ.
Alors ça, je pense que c'est dû au format français qui relie plusieurs épisodes, puisque quand on les lit en single, où c'est juste des petites
Ouais.
brochures agrafées, on n'a pas ce problème parce qu'on voit vraiment la continuité des images. Là, c'est vrai qu'avec le pli là au milieu, on voit pas forcément toujours que les vignettes, elles se continuent, en fait, que c'est la même. Donc je pense que c'est vraiment dû au format, puisque moi, je l'avais lu en VO et j'avais pas eu du tout ce souci.
Par contre, j'ai eu un souci avec l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, hein, parce que je connaissais rien à l'univers de
Dedans.
Daredevil. Et du coup, on revoit plusieurs personnages comme Elektra. On voit aussi une de ses ex qui maintenant oublie tout son passé. J'ai oublié son nom. Je sais plus. C'est une actrice dans l'histoire. Et du coup, comme c'était des personnages que je ne connaissais pas, alors que le personnage Ben Urich, lui, le connaissait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire.
Ça t'a fait la même chose, toi, Elvire?
À moi, pas du tout. Ça m'a pas dérangé parce que je trouve qu'il y avait quand même quelques explications, et au contraire, ça m'a donné envie de découvrir par moi-même. On n'a pas toutes les explications quand on lit le comics, mais moi, l'histoire du héros déchu et justement le truc avec le mot Mappen, qui m'a vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de continuer le pitch m'a bien intéressé. Après, ne pas tout comprendre ne m'a pas tant gêné que ça. Pour une fois, alors que d'habitude, j'aime bien tout comprendre dans ce que je lis, mais là, ça m'a donné envie de découvrir l'univers complet de Daredevil et de continuer surtout. Donc moi, non, ça m'a pas du tout dérangé.
Le mystère de ce mot, Mappon, c'est en fait l'histoire principale avec ce mystère du mot. J'accrochais à cette histoire-là, et c'est toutes les histoires à côté avec tous les ouais ces flashbacks, ces références à des histoires du passé. J'ai eu beaucoup de mal à adhérer à ça, justement parce que j'avais pas les informations nécessaires, et j'aime bien connaître, avoir assez d'éléments de l'univers pour tout comprendre, enfin comprendre une bonne partie.
Après, moi, c'est peut-être parce que j'ai lu Game of Thrones, donc au bout d'un moment, les beaucoup de personnages, et même si on connaît pas, on s'y fait parce qu'il y en a
Effectivement,
tellement.
oui.
Donc peut-être que j'ai pris le pli avec, grâce à George Martin, j'ai pris le pli de pas vouloir tout contrôler, de pas chercher à tout comprendre, parce que au bout d'un moment, c'est possible, donc je sais pas.
Alors, pour une fois, c'est vrai que Brian Bendis ne décompresse pas. L'histoire avance. À chaque épisode, il se passe plein de trucs. C'est très bavard. Chaque phrase a été, je pense, bien étudiée. David Mack nous le dit dans l'interview. Ils ont vraiment bossé les dialogues et le récit. Et du coup, c'est vrai que on n'a pas de temps à perdre pour broder. Donc, c'est peut-être ça en fait qui t'a dérangé, toi, Arnaud, où tu penses avoir peu d'informations. Mais j'ai l'impression quand même que Ben Urich, quand il fait ses bulles, enfin non pas ses bulles de pensée, mais les cases narratives maintenant, c'est plutôt des cases narratives, il explique quand même qui sont les personnages qu'il va voir. Alors certes, il y a vraiment le strict minimum.
Voilà. Mais sinon, l'intrigue générale sur l'enquête du journaliste pour découvrir la signification de ce mot-là. Par contre, cette partie de l'intrigue, j'ai beaucoup adhéré. Et ça m'a donné envie justement de terminer ce premier tome et de lire le second quand il sortira.
Alors justement, Mappone, à votre avis?
Alors moi, je connais pas du tout l'univers, donc non.
Oh, même si tu connais l'univers, enfin, je connaissais le personnage et quand j'ai eu la révélation à la fin, enfin, on s'y attend pas, hein.
Parce que moi je connais pas du tout. Là, je le vois mourir. Je vois un personnage mourir que je n'ai pas connu avant en fait. Donc non, aucune idée sur ce que ça peut être moi.
Et bien alors rendez-vous au mois de décembre, parce que je crois que Panini va sortir la suite au mois de décembre, assez rapidement et heureusement, parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à être un peu sur les dents, parce que ça se finit quand
Pour une
même.
fois, Panini fait les choses bien.
Ah oui, donc toi t'aimes pas Marvel, et en plus Panini c'est pas.
À Panini, je supporte pas moi, donc. Non,
Mais
j'ai pas dit
allez.
que je n'aimais pas Marvel. Avec modération.
Avec modération.
Mais elle est trouvable en VO, cette série. Cette série.
Oui, bah oui, elle est trouvable en VO. Elle est terminée depuis cet été en VO. Et le relié en couverture rigide est sorti. Et d'ailleurs, bon, en plus d'être super luxueux, il y a beaucoup de pages de bonus sur le travail au niveau des illustrations, les recherches pour faire les illustrations, des morceaux de script aussi qui sont montrés. Et ça illustre bien le travail qui a été réalisé autour de ça. Et c'est assez intéressant. Je pense pas qu'on ait ça dans la version française. Hein. Faut pas se cacher. On l'aura, oui, mais dans un an ou deux, quand ils vont le ressortir en format de luxe à 28 €. Voilà, histoire que les gens l'achètent deux fois pour avoir les bonus.
C'est à cause de Panini, ça. Urban aurait fait mieux.
Panini comics.
Voilà, donc on s'est fait de nouveaux amis aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce bouquin?
Du coup, ça a eu un imp... Est-ce que le Daredevil The End of Days, parce que tu disais que c'était sorti là il y a plusieurs mois en VO,
Ouais.
du coup, est-ce que ça a eu un impact sur la continuité de Daredevil là, dans les mois qui
Alors,
ont précédé.
pas du tout, dans le sens où en fait ça c'est la dernière histoire de Daredevil, donc après le scénariste actuel sur Daredevil qui est Mark Waid,
Ouais, parce que
il n'est pas obligé de l'intégrer maintenant, hein, ils
parce que du coup,
peuvent.
Bendis a rejoint All New X-Men. Donc,
Voilà. Non, il n'y a pas d'impact, c'est vraiment une histoire
D'accord.
à part.
D'accord.
Ils se sont fait plaisir, ils se sont retrouvés les cinq là, ils ont fait un truc. Voilà.
Ils ont dit, on va buter un personnage. Pourquoi pas le méchant?
Ça fait super longtemps qu'ils bossent dessus, hein. Ils ont commencé en 2007, donc
Ouais.
c'est un vieux.
Ouais, c'est quand même
Donc
pas mal, ça.
dans les comics, on peut mourir mais ne pas mourir.
Ouais, parce que ça, c'est une
Ouais,
histoire qui se
ça
passe dans
peut
le
faire.
futur, elle n'est pas datée. Donc.
D'accord, ils ont prévu que le personnage, l'histoire du personnage terminera comme ça, mais c'est pas sa fin, quoi.
Ils peuvent le réécrire, hein.
Ouais, ils peuvent même réécrire cette fin, parce que ça, c'est la fin vue par Bendis, David Mack et compagnie. Le scénariste qui décidera de faire mourir Daredevil si un jour il meurt ou si un jour il y a vraiment une fin à son histoire, ça sera pas forcément celle-ci. C'est vraiment leur version à eux. C'est leur manière de terminer ce qu'ils ont commencé il y a plusieurs années quand ils ont bossé sur le personnage, notamment Bendis. Voilà, il a fait un run sur Daredevil et voilà, c'est sa manière de conclure. C'est la conclusion qu'il propose. Mais après, ça sera pas forcément. Ça peut changer. Bien, on peut maintenant passer en format 16 tiers et enfin attaquer le gros morceau de cette émission. Format 16 tiers de cette deuxième émission, on perd pas de temps, on commence tout de suite par quelques news avec Arnaud.
Alors, mardi, c'est ABC qui a annoncé une nouvelle série adaptée des comics Marvel. Donc là, ça serait centré sur l'agent Carter, que l'on a vu dans Captain America, qui est la petite amie de Captain America, et dont un court-métrage lui a été consacré dans les bonus du Blu-ray d'Iron Man 3. Et donc, on n'a pas plus d'informations sur la série, juste que ce sera basé sur cet agent du Shield, qui s'appelle Carter, dans les années 40, je suppose.
Ouais, logiquement 40, 40-50, hein.
Mais du coup, s'il voudrait l'associer l'année prochaine avec Agents of Shield, je suis pas sûr que la placer dans les années 40, ça fasse
Ah,
un
ça
bon duo.
dépend.
Oui, mais elle a pas survécu. De ce qu'on
Si.
sait d'après. Si? D'après
Logiquement, si.
Captain America.
Alors moi, j'en sais rien, parce que c'est un personnage qui me gonfle, ça m'intéresse pas du tout, donc
De ce que j'ai lu en lisant les encyclopédies et tout le bordel, apparemment le personnage survit. Est-ce
D'accord.
qu'on après est-ce qu'on va la revoir ou pas? Ça, bonne question.
Ouais, enfin bon, on verra. Enfin moi ça m'emballe pas
Enfin
plus que
l'idée,
ça.
bah, ouais, bah, je trouve pas le
Faut
personnage.
voir.
Faut voir
Ça peut
comment
être intéressant
c'était,
vu qu'on
mais
connaît pas le personnage, ça peut être
ouais.
intéressant de la
Mais
découvrir en dehors des
j'aime
films.
bien moi le côté, j'aime bien le côté années 40, donc ça me dérange pas. Puis on sait toujours. Ça peut être pas mal, j'ai trouvé l'actrice plutôt pas mal dans Captain America, donc pourquoi pas. Après, tout dépend comment ça sera écrit, comment ça sera fait, et blablabla.
Ouais, moi
À
après
voir.
ce qui me dérange quand même, c'est que voilà, Agents of Shield n'était même pas sorti, qu'il nous annonçait ça. Là, depuis le début de la semaine, c'est la surenchère à celui qui va montrer la plus grosse série Clément. Donc
Faut préciser avec moi, parce que...
donc voilà quoi, c'est ouais, ça commence un peu à me gonfler là, toutes ces séries qui tombent parce que c'est pas la seule, Arnaud.
Comme tu l'as dit, vu le succès d'audience de Agents of Shield, la Fox a acheté le projet Gotham, donc qui se passera à Gotham City, qui est produite par la Warner, bien sûr, et qui est centrée sur le commissaire Jim Gordon avant l'arrivée de Batman, et on verra son entrée dans la police de Gotham et la création des super vilains iconiques
Oh mais
de la
non,
Bat-Family.
c'est mauvais.
Alors, oui, moi je suis contre ce projet, vu qu'on
Ah
fait
berk.
table rase des origines de Batman, puisque
Ah,
Batman et Gordon arrivent en même temps.
c'est une grosse
Donc,
incohérence
ce
quoi.
projet me plaît pas.
Bah en soi en plus ils disent qu'ils vont se baser sur Batman Year One. S'ils se basent sur le
Bah
projet,
bon, voilà.
c'est une grosse incohérence parce que dans le comics, Gordon arrive peu de temps est muté à Gotham City peu de temps avant l'arrivée de Batman. Donc déjà en soi c'est une grosse incohérence quoi. Comment ils vont tourner le truc parce que ça impliquerait de enfin ils pourront toujours évoquer Bruce Wayne et tout le bazar mais ça impliquerait de voir Batman un jour ou l'autre enfin pour moi à la télévision. Donc s'ils veulent être fidèles sur Batman Year One, je pense
Yes.
honnêtement que c'est très casse-gueule.
Après Batman Year One, c'est vrai, c'est une supposition, parce que c'est vrai que le pitch qui a été donné par la Fox fait quand même
D'accord.
penser à l'arrivée de Gordon dans Year One. Ça fait aussi penser à Gotham Central, la série qui tournait aussi autour du commissariat de Gotham. Voilà, après c'est pour le moment des rumeurs, on sait même pas si ça va
C'est
être
des
basé sur ces
rumeurs.
deux séries, puis qui.
Moi, je me pose quand même plusieurs questions. Est-ce que Gotham va être indépendant, on va dire, de la continuité DC? Est-ce que ils vont quand même chercher à ce que ça soit cohérent vis-à-vis de ce qui a été fait à la télévision ou en film?
Ah bah ça sera
Enfin,
clairement à part. Ça sera clairement
ça
à
va
part,
être,
c'est pas sur la même chaîne.
c'est pas sur la même chaîne, mais enfin, ça
oui,
va
mais
être le bordel, on va plus s'y
comme c'est
retrouver.
développé par Warner aussi, peut-être
Bah
qu'ils
oui,
veulent faire
voilà,
comme
c'est développé
Marvel,
par Warner.
un univers ciné et télé ensemble. Mais bien
Qui
sûr, on verra
serait
jamais
un
des
peu trop
personnages
ambitieux,
d'Arrow.
peut-être.
Mais on verra
Trop
jamais des
ambitieux.
personnages d'Arrow venir dans Gotham,
Non,
etc.
voilà.
Et peut-être que ça pourra se développer dans le même univers, donc il pourrait peut-être y avoir des références, mais jamais des personnages
Peut-être.
viendront
Je trouve ça casse-gueule. Honnêtement, je trouve ça casse-gueule.
Moi,
Je pense
franchement,
pas, ils auraient.
le projet me plaît pas du tout.
J'aime pas le projet, puis ils auraient pu. À la rigueur, ils auraient quand même pu faire ça sur un autre personnage.
On pourrait faire aussi une série sur Constantine, tiens, par exemple.
Oui, une troisième chaîne, pas la CW ni la Fox, et encore moins ABC, donc une quatrième chaîne, pardon. C'est NBC qui va adapter le comics Constantine. Donc ce sera produit par David Goyer. C'est celui qui était au scénario de Man of Steel.
Ouais, bah Constantine, c'est un détective qui est très adepte des choses un peu autour de la magie, du
Et si je me
surnaturel.
trompe pas, ils avaient fait un film. Il y a
Avec
plusieurs
Keanu
années.
Reeves, non?
Oui, c'est
Avec Keanu
ça.
Reeves, ouais.
Exactement, un film avec Keanu Reeves, voilà. Donc, et ben voilà, une nouvelle série sur un nouveau
À
personnage.
voir. Ça peut. Là, par contre, le fait, si c'est un, comme tu dis, c'est un détective, que ça mêle paranormal, si c'est bien fait, ça peut être fun. Je trouve
Il y
que
a
ça peut
plein
être fun.
d'autres séries un peu comme ça, donc j'ai un peu peur. Ça fait un peu l'histoire de l'idée du détective mélangé avec
Ouais,
du
ça me déplaît
surnaturel.
pas.
Ça me fait penser à Grimm ou même encore à Supernatural.
Natural, ouais, moi aussi, donc.
J'ai un peu peur que ça fasse un peu redite.
Faut
À
vraiment que ça
voir
se
comment c'est
démarque,
fait.
mais
À voir
faut
comment c'était.
révolutionner.
Moi, j'ai surtout l'impression que mardi, on a vu les experts New York, que Gotham, on aura les experts Gotham et que Constantine, ça sera les experts magie.
Ouais, ça va être un peu
Voilà.
ça. Ouais. Fort heureusement, à côté de ta Euro qui sort quand même du lot.
Voilà, j'ai un peu peur du ras-le-bol quand même. Hein.
Bah là, c'est. Ils enchaînent tout et n'importe quoi, donc effectivement.
On verra, on attend de voir les pilotes déjà, et déjà est-ce que ça franchira les
Oui,
sélections,
effectivement.
voilà. Bon, on va attaquer le gros morceau de l'émission, on va arrêter de tourner autour du pot. Agents of Shield a été diffusé mardi, le pilote donc tant attendu depuis un an et demi, je sais même plus.
Un an.
Arnaud avait marqué la date sur son calendrier en fluo et tout, il avait mis des petits.
Il bavait dessus
J'avais
Depuis...
écrit Dieu, le retour de Dieu à la télévision.
Donc c'est ça, donc on va savoir enfin si Arnaud va ou pas brûler son idole ce soir. Déjà, sans spoiler, Arnaud, est-ce que tu peux nous résumer l'intrigue de ce pilote?
On fait la connaissance d'une nouvelle équipe du Shield, à sa tête Coulson, puis d'autres comme un ex-militaire, etc. Donc si vous voulez savoir les personnages, écoutez le premier podcast, puisque j'en ai parlé longuement.
C'est le roi de la pub, ce gars, c'est le roi de la
Ouais.
pub.
Cette équipe doit enquêter sur un super-héros qui s'est dévoilé au public. On découvre à partir de ça qu'il y a une organisation qui se construit face au Shield.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus sur l'intrigue pour le
Sans trop
moment.
spoiler.
On
En même
pourra
temps.
spoiler comme des gros porcs dans quelques minutes. Voilà,
Voilà.
on mettra une balise, on dira voilà, attention, bouchez vos oreilles ou passez quelques minutes. Voilà, juste l'intrigue principale est posée. On avait fait un petit pari la dernière fois sur les audiences.
Oui, justement.
Et
C'était quoi?
bah oui, forcément, Clément n'était pas là. Donc
Ah non.
on avait parié, donc je vais le rappeler pour les auditeurs aussi. On avait fait un petit pronostic sur les audiences. Donc. J'ai bien réécouté en détail la séquence
Le petit salico.
avant d'enregistrer ça. Arnaud et Elvire étaient d'accord pour dire que si Agents of Shield atteignait les 10 millions, ce serait très bien. Et pour ma part, je disais que on serait au-delà des 10 millions et sans doute plus près des 15 que des 10. Voilà.
Et au final, on est à
Verdict,
12.
Elvire?
Nous sommes à 12 millions, un peu plus de 12 millions, et 4,7 sur les 18-49 ans,
Voilà,
pardon.
ça c'est le taux, voilà, sur la cible.
C'est le taux.
C'est un petit peu nos ménagères à nous.
Voilà, oui, c'est
Exactement.
le.
Ouais.
Et donc, face à la concurrence, quand même, NCIS The Voice, qu'est-ce que
Non,
ça
non, non,
donne?
non, mais avant de parler de ça, 12 millions, on est
Virgule.
plus près des 10. Hein.
On
Bah,
est
je suis
plus
d'accord, t'avais dit
près
15. Je
des
suis d'accord.
10. Tu
On
n'étais
est,
pas
mais
là.
on est effectivement plus près des 10, effectivement. Je vous accorde que voilà. Mais
Donc.
je suis content de cette audience.
Et donc, comparé à
Et c'est pas mal.
NCIS et à The Voice, qui étaient les plus gros leaders face à Agents of Shield, donc on est à 20 millions pour NCIS et 14 millions 35 pour The Voice. Donc, il y a quand même un écrasement par rapport à Agents of Shield, mais oui, c'était ce qui était attendu parce que des marchés publics de NCIS, qui est déjà un public acquis et qui attendait ça, ça aurait été. Que Agents of S.H.I.E.L.D. soit plus que NCIS aurait été
Alors,
extraordinaire,
en
ça aurait
nombre
été
de
vrai.
téléspectateurs, certes, mais si on
Mais
regarde
sur le
la.
taux, oui, là, NCIS est battu par Agents of S.H.I.E.L.D.
Donc, NCIS est battu largement, parce que 1.1, c'est quand même un bel écart.
Ça,
Un bel écart,
c'était
oui.
pas étonnant, ça. C'était sûr que le public âgé de
Ouais.
NCIS
La
allait
surprise.
rester sur NCIS. Ouais.
La surprise, c'est quand même The Voice qui fait
Ah
juste
oui, elle est
jeu
tombée.
égal, tout juste jeu égal avec la série. Et c'est.
Qui est la cible phare aussi, les 12, les 18-49.
Bah oui, The Voice fait un
Là, ils avaient
carton.
exactement la même cible et on est à égalité.
Donc
Donc
c'est.
là, c'est une très bonne surprise. Ouais. Et par contre, les autres nouvelles séries comme Brooklyn Nine-Nine et Dads, bah, ils sont dans les abîmes, là, hein,
Bon, ils se sont
comparé.
plantés, mais.
Comme j'avais annoncé, ça s'est planté.
Ils sont à 1,8 en taux sur la cible et 1,5.
Le gros challenge, c'est pour
Le
la semaine
gros challenge,
prochaine.
ouais, c'est la semaine prochaine.
Voir comme de combien ça va baisser.
Lancement pour le moment réussi, en tout cas
Moi,
sur
je
la
reste
cible.
sur mes 10. Je
Oui,
reste sur
non
mes 10
mais.
la semaine
Ouais.
prochaine.
Le lancement n'est pas si réussi que ça. Si on voyait que c'était la série la plus attendue de la saison, non, là, c'est juste un résultat de bonne série, pas de
On
très
peut
bonne
dire
série.
que c'est le meilleur démarrage sur ABC depuis 2009.
Bien, voilà, donc on va pas s'attarder trop sur les audiences, puisqu'on a encore plein de trucs à dire sur cet épisode. Je vous propose d'en parler maintenant. Alors, à partir de maintenant, on risque de spoiler la suite du pilote et l'intrigue et la conclusion de l'épisode. Donc, si vous voulez attendre d'avoir vu, vous pouvez passer complètement la fin du format 16 tiers et on se retrouve pour le coin des Padawan. Donc pour discuter de cet épisode, je vous propose de le faire en trois temps. D'abord sur les personnages, après on parlera du scénario et de la réalisation par Joss Whedon donc. Donc, au niveau des personnages, allez Arnaud.
Ah bon, les personnages, franchement, c'est une déception. Ils sont quasiment tous clichés. T'as d'un côté l'agent Ward, qui est l'espion quasiment parfait, il réussit presque tout ce qu'il fait. À côté de ça, t'as la civile qui est super bonne avec l'informatique.
Ah, tu viens
Oui,
de réveiller
Clément, je
Clément
te
là.
vois venir.
Il y a des mots clés à ne pas utiliser.
Mais non.
Oublions le mot bonne pour Clément. Mais oui, c'est la civile super hackeuse qui réussit à hacker le shield. C'est un peu cliché, quoi. Et après, d'un côté, il y a aussi les autres personnages sont moins clichés, mais ce que j'ai pas aimé, c'est ce faux suspense sur les secrets des personnages, du genre Coulson n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il ne doit jamais savoir, mais bien sûr qu'on va savoir ce qui s'est
Oui, ça sera la
passé.
mi-saison, ça.
C'est un faux suspense qui sert pas à grand chose. Et pareil pour le personnage de l'agent May. Avant, c'était une super agent. Maintenant, elle reste dans son bureau, mais elle veut plus y retourner parce qu'il s'est sans doute passé quelque chose dans son passé. J'aimerais bien que ce genre d'intrigue, que les secrets des personnages soient vite révélés, qu'on ne garde pas les mystères jusqu'à la fin de la saison, parce que tenir ça sur une vingtaine d'épisodes, ça va être lourd.
En même temps, on en parlera tout à l'heure quand on verra le scénario, mais malheureusement, ces mystères et ces intrigues autour des personnages, c'est le seul enjeu fort qui a été
Pour le
présenté
moment.
sur ce pilote.
Ouais.
Il n'y a
Et
rien
encore.
d'autre, il n'y a rien d'autre qui
C'est
te dit,
clair. Mais
purée.
c'est
Tu
vraiment
te dis, je
ça
vais
manque
rester.
d'enjeu.
Donc
Voilà.
ouais, voilà, le premier défaut pour moi, c'est oui, c'est un manque d'enjeu, mais ça on en parlera dans le scénario. Sur les personnages, Clément.
Je vais rejoindre Arnaud. Bon, à part bien sûr le personnage de Phil Coulson, qui est le meilleur personnage de la série, bien sûr, avec interprété par Clark
Greg?
Gregg. qui fait toujours son boulot de manière excellente. Le reste des personnages, bah, comme l'a dit Arnaud, hein, je les ai trouvés dès le départ archi caricaturaux. Entre le personnage qui n'était plus sur le terrain, donc le personnage de Melinda May qui n'était plus sur le terrain, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi, mais qui va retourner sur le terrain parce que il se passe quelque chose, et qui en plus de ça est badass, sait frapper, etc. Pour moi, c'est du déjà vu. Le personnage de Grant Ward, qui est un ancien combattant, qui sait tout faire, c'est un beau gosse, c'est du déjà vu aussi. Les personnages de Leo Fitz et de Gemma Simons, donc eux qui sont un peu plus les scientifiques de la bande, qui sont un peu entre guillemets tarés,
Tic
c'est
et
hyper
tac.
caric. Ouais, Tic et Tac, voilà, c'est très caricatural, c'est du déjà vu aussi. Et la civile qui essaye de se faire le shield, mais qui va résultat se faire recruter, qui est interprétée par une actrice qui est plutôt pas mal, qui est plutôt pas mal, bah c'est aussi caricatural. J'ai quand même relativement aimé le personnage de Sky, que j'ai trouvé plutôt drôle par moment. Voilà quoi, les personnages sont fades, sont pas super intéressants. Ils essayent d'instaurer des secrets pour que ça soit entre guillemets attrayant, mais en fait c'est plutôt lourd qu'autre chose. Donc ouais, niveau des personnages, c'était une énorme déception pour moi. Bon, j'en attendais déjà pas grand-chose au niveau des personnages, mais là pour le coup, ça n'a fait que confirmer mes craintes.
Elvire, est-ce que tu vas remonter un petit peu le score pour la
Bah
pour le
non, après bah, je vais pas refaire le descriptif des autres personnages parce que je pense à peu près la même chose. Je vais juste accentuer Sky, niveau conviction, zéro. Elle retourne sa veste en 3 secondes.
Ça, c'est pas faux,
Ah oui,
ça.
le shield, bah, c'est génial. Alors qu'elle a passé, bon, peut-être pas toute sa vie, mais une grande partie de sa vie à essayer de combattre le shield. Et en 3 secondes, elle retourne sa veste. Donc niveau conviction, zéro. donc ça, j'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu irrationnel. Et pareil, moi, il n'y a que Coulson qui porte la série sur ses épaules, le reste, bah, mais voilà, comme a dit Matt, le secret des personnages, pour moi, ça va porter la saison. Donc,
J'espère
et c'est
pas.
ça qui me fait peur. Mais moi,
J'espère pas.
j'ai peur que ça. Mais, donc voilà, oui, moi, les personnages, bah, oui, tous aussi clichés les uns que les autres, les deux scientifiques un peu barrés. Donc, non, j'étais aussi déçue, même sur ce qu'on croit être le héros, mais qui devient un vilain après. Pareil, la conversion se fait trop vite pour moi. Donc voilà. Alors à toi, Matt, relevez tout ça.
Malheureusement, non. Je vais pointer plusieurs choses. Coulson, voilà, Clark Gregg porte l'épisode sur ses épaules. L'intervention de Maria Hill, quand même, il faut souligner, c'est une des meilleures scènes de ce pilote. C'est le passage où il y a Coulson et Maria Hill, où là, voilà, on a quand même deux acteurs qui sont un peu convaincus de leur personnage. Et après, cette équipe, c'est le niveau 7, le level 7 du Shield.
On est
Bah,
censé avoir la crème de la crème, quoi.
voilà,
Ouais.
ça fait
On est
peur.
censé.
Ça fait
Donc, qu'est-ce
peur.
que c'est au niveau zéro? Mais moi, limite, le personnage, entre guillemets, de Lola m'a plus intéressé que certains personnages. Donc,
Lola.
les apparitions de Lola m'étaient plus intéressantes pour moi que...
Ah
Surtout la
oui,
fin.
ben,
La fin avec
ah
Lola.
oui, la fameuse Zola. Donc, on en reparlera tout à l'heure
Ah, je sais
au
plus qui
niveau des
c'est.
références. Ben Lola, c'est la voiture.
C'est la voiture.
Ah
Ah
oui, ah oui!
oui, d'accord. Ah oui, ah oui.
C'est dire l'intérêt de certains
Second
personnages.
personnage le plus intéressant avec
Ouais,
Coulson. Le
effectivement.
personnage secondaire, on a le plus
Pendant
intéressant.
un beau couple avec sa voiture.
Après, quand même, le personnage de Mike Peterson est
Ah,
quand
moi,
même.
j'ai pas du tout aimé.
Ah, moi, il m'a convaincu. Enfin, l'acting, en tout cas, m'a convaincu.
Je sais pas si c'est le personnage qui était mal écrit ou l'acteur qui était pas en forme et qui a mal interprété.
Non,
Parce qu'en
peut-être le
principe,
personnage.
c'est un bon acteur, qui était dans Angel. C'est un bon acteur. Alors, je sais pas si ça vient du personnage ou de l'acteur.
Je sais pas si vous avez remarqué le petit clin d'œil à un moment. Je sais plus qui lui dit You're an angel.
Ah non,
Ah,
pas
j'avais
fait
pas
gaffe.
percuté.
Clin d'œil, je pense, de Joss Whedon à lui-même.
Ah non.
Il y en a plein dans tout l'épisode, mais ça m'a fait sourire. Non, moi le personnage m'a convaincu. Pour le
Oui.
coup, le face-à-face final avec Coulson, c'est avec la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, pour moi la plus forte, la plus réussie.
Ah oui, dans la banque,
Oui,
non,
voilà,
dans la gare.
dans la gare là, voilà. pour moi, c'est la scène la mieux jouée, mais enfin, ça, quand on voit les
Encore
autres.
une fois, c'est parce qu'il y a Coulson, hein.
Mais après, est-ce que vous. C'est peut-être moi qui suis pas très. Qui suis limite intellectuellement, mais vous avez compris pourquoi il survit? Parce qu'il lui tire quand même une balle dans la
Non,
tête?
j'ai pas
Non,
vraiment compris.
c'est pas.
Est-ce que c'est moi qui ai
C'est
pas.
pas une
Il a une
balle,
balle dans
c'est pas.
l'épaule.
Enfin, c'est une. Non, il se prend quelque chose dans la tête.
Non, il se prend un truc
Mais
dans le
c'est pas,
crâne,
c'est,
mais.
enfin, c'est pas vraiment une balle, c'est, en fait, c'est, ils ont trouvé l'antidote, je pense, ils ont trouvé le produit,
C'est
là, qui...
un catalyseur de.
Voilà,
D'accord.
ils ont trouvé quelque chose pour,
C'est vrai qu'au début, ça surprend, je pense.
Dans la tête, et puis tout le monde sourit. Tu fais, bon, bah, il s'est
Oui,
pas pris une
mais c'est
balle
un
dans
peu
la tête, hein.
bleuté, c'est un petit peu bleuté, à
D'accord.
l'image, donc, je pense qu'à un produit, il y a quelque chose qui a neutralisé, Extremis, puisqu'il s'agit d'Extremis.
Enfin, il se prend quand même une balle dans la tête,
Oui, il se prend quand même quelque
Ouais.
chose dans
Tu
la
survis
tête.
pas à une balle dans la tête.
Voilà. On est au Shield, c'est pour ça.
On est
Ouais.
chez Marvel.
On est sur ABC, Marvel,
Voilà,
univers familial,
Disney.
pas de sang.
Pas de mort et tout ça. Bah d'ailleurs,
Ouais.
est-ce qu'il y a des morts? Oui, il y a un mort, mais
Ah
voilà.
bon?
Dans l'explosion, oui.
Ah oui, on voit un
Oui.
cadavre.
Bah oui, il a explosé. Donc.
Ah oui, il a explosé, donc on voit son cadavre.
Et peut-être au début, quand ils sont à Paris, je crois qu'ils tirent sur quelqu'un.
Donc on est d'accord que sur les personnages qui sont pourtant un des points forts de Joss Whedon jusque-là, il y a quand même un gros boulot à fournir dans la suite et il va falloir en donner un peu plus pour convaincre.
Il est Whedon et comment dire? C'est un auteur sur la longueur, si je puis dire. Il a besoin de développer ses personnages. C'est pour ça qu'il est excellent à la télévision. Pour lui, ce qui est primordial, c'est les personnages, c'est leur développement. Mais c'est vrai que là, sur le pilote, ils font tous un peu cliché. On a un peu de mal à voir
Ouais.
leur potentiel. À mon avis, je pense que c'est Marvel et ABC, enfin Disney, tout ça.
Ouais.
Les exécutifs ont dû lui dire, bon, il faut que tu fasses une série un peu familiale, il faut que ça parle un peu à tout le monde, donc tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et le pauvre, je pense qu'il a pas dû avoir autant de liberté qu'il avait
Ouais,
voulu.
mais
Il
en
s'est
même
peut-être
temps.
un peu précipité parce qu'il avait autre chose à foutre aussi.
Whedon, c'est pas dur. Enfin, moi j'en ai marre d'entendre que Whedon c'est le meilleur, Whedon c'est tout
C'est Dieu,
faire.
Whedon. Dieu. Mais
Franchement,
non, tu vas
non.
pas envisager que c'est Là,
lui
il
qui a
tombe de
été
son nuage.
mauvais.
Là, il tombe de son nuage, là.
Il a été mauvais dans
Il a
Avengers, il a été mauvais.
été mauvais. Bah, Avengers, je sais, je pourrais pas
Non,
juger, mais
Avengers,
là, pour moi, il a été
c'est
mauvais.
bien. Là, je suis d'accord sur vous. Même ce qu'on va
Non,
en
il s'est
parler là,
merdé, là.
juste après,
Parce que
la
l'excuse de
réalisation
dire.
est mauvaise. J'ai trouvé la
Oui,
réalisation
bah.
plus que banale, c'était horrible. Alors qu'il était bon sur Avengers, là, la réalisation, c'était lui à la réalisation, et c'était mauvais. Enfin, franchement, banal, banal, banal. Bref, faut que je me calme.
Ouais, du coup, je suis complètement d'accord avec Arnaud. La réalisation est banale. J'ai rarement été surpris. Non, pas rarement. Jamais été surpris. Pour moi, c'est hyper conventionnel. C'est très classique. Je vais te faire une comparaison. On aime ou on n'aime pas, mais à côté, tu prenais. Bon, ça date un peu. Tu prenais la réalisation du pilote de Euro. Il y avait quand même beaucoup plus d'originalité face à Agents of Steel, même si c'est pas, hein, le même univers, même si c'est pas la même série. Enfin, je veux dire, il y avait quand même plus d'originalité côté réalisation.
Il y avait plus d'ambition,
Plus
surtout dans
d'ambition.
l'épisode.
Ouais. Même dans l'épisode, hein. D'ailleurs, ça se
Oui, dans
ressent pas.
l'épisode en général.
Rien qu'au niveau des personnages, du scénario, de la réalisation, chez Euro, le pilote était beaucoup plus réussi que Agents of Shield.
Carrément.
Pour moi. Même au niveau de la musique, hein, d'ailleurs. D'ailleurs,
Il y avait
on pourrait en
dans
parler.
Agents of Shield, là, il y a quelques plans qui sortent un peu de l'ordinaire, genre
Ouais, ça m'a pas marqué.
quand il est dans la gare et on voit Mike et puis plusieurs portraits au-dessus de lui. Il y a quelques plans un peu comme ça, un peu originaux, mais sinon ça reste bah
Oui,
oui
ça
banal.
reste plein. Moi, il
Voilà,
y a
ça reste
juste
plein.
vraiment, bah ça m'a pas surpris, c'est pas révolutionnaire, mais le seul plan que j'ai à peu près aimé, c'est quand Coulson sort du noir. C'était un petit peu
Ouais,
attendu, mais
pas
c'était bien fait.
mal.
C'était bien fait. Il y a
D'ailleurs,
que
pour moi,
ça qui
c'est
me.
le seul moment où on ressent la patte Whedon avec
Ouais,
notamment
effectivement.
ce qui vient juste après. La petite blague de Coulson qui dit, en gros il sort de l'ombre et tout et il dit
Hey, j'ai vu un petit
ouais
coin
ouais
dramatique.
je sors d'un coin sombre, j'ai trouvé ça dramatique voilà.
Ah oui,
Oui,
ça
là,
c'est
oui,
vrai que c'est la patte
c'est bien
Whedon.
du Whedon.
Voilà, et toutes ces
Il y a que
petites
ça,
phrases
quoi.
comme ça, il y en a plusieurs, des petites phrases un peu fines comme ça parce que
Ouais.
quand même tout n'est pas raté. Je trouve que les dialogues et
Les
l'humour
références, surtout.
voilà, ça tombe juste à chaque fois.
Ouais, l'humour et les dialogues sont. C'est ce qui sauve le pilote, j'ai envie
C'est
de dire.
très juste, c'est
Ah oui.
vraiment
Bah, les références, elles sont multiples et ça donne une cohérence quand on peut. quand même souligner ça, du coup on parle du scénario aussi, mais il y a quand même de grosses références aux films Marvel, beaucoup quand même sur Iron Man 3 avec Extremis.
Après sur les autres films, c'est plus discret, mais il y en a.
Pour moi, c'est un des points forts quand même du pilote, c'est que ça fait la liaison entre les films et la série. C'est pour moi le gros, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le gros truc que j'ai aimé dans ce pilote, c'est les références. Les références, oui, comme je l'ai dit, à Iron Man 3, les références aux Avengers
À tort aussi.
lorsqu'ils évoquent la bataille de New York, oui, aussi. Il y a Thor, je crois, à un moment, il nomme le mar... il parle de marteau, non?
Oh non, c'est parce qu'il
Non, ce
parle
qu'elle
de
dit.
demi-dieu, il y a quelqu'un qui dit Thor, c'est pas
Ah oui,
vraiment un
c'est
dieu,
vrai.
un truc. Enfin, il y a
Oui.
une bataille sur ça.
Oui, voilà, donc c'est pas. Là, de ce côté-là, j'ai trouvé le scénario pas mal. Après, ça reste banal. Ouais, tous les défauts qui se ressentent, le scénario et les personnages, c'est un peu un tout, quoi. Donc, c'est un peu les défauts. Mais les références restent l'un des gros points forts, à mon sens, du pilote.
Oui, c'est une série qui s'inscrit pleinement dans le Marvel Cinematic Universe et de ce côté-là, c'est clair que c'est réussi. Vas-y, crève, crève en plein milieu du
Désolé.
truc.
Après, pour parler du scénario, il y a à la fin, pendant tout l'épisode, ils font référence à la Rising Tide, l'organisation qui se met contre le
Alors,
Shield.
ça
Donc,
existe,
c'est le
ouais.
bout de fil rouge qu'on voit
Oui,
arriver.
du coup,
Donc, c'est le petit potentiel qu'il y a
Du
dans
coup,
ce
je
pilote.
vais. Du coup, comme tu en parles du fil rouge, j'ai été très déçu. Pour moi, c'est un gros tort. Tu sais pas, le scénario est fait de telle façon. Bon, on avait déjà évoqué en parlant des personnages on peut se douter qu'une partie de la saison va reposer sur le secret des personnages. En revanche, on a vraiment très peu d'idées sur l'enjeu de la saison. On sait
Il
pas.
n'y a pas
Il n'y a
a pas vraiment
pas
d'enjeu
d'enjeu pour le
dans
moment.
ce
On
pilote.
sait juste qu'il va y avoir une organisation. Secrète ou pas, on s'en fout, qui va s'opposer au Shield, mais c'est tout. Il n'y a pas de fil rouge qui démarre vraiment. C'était pas, par exemple, encore une fois, je vais faire la comparaison, mais comme c'est dans le milieu super-héros, je pense que la comparaison peut être faite de manière assez juste. Encore une fois, quand tu avais le pilote de Raw, là, tu avais les enjeux qui étaient directement inscrits dès le pilote. Là, dans Agents of Shield, t'as pas vraiment d'enjeu. Donc ça m'a assez dérangé quand même qu'on sache pas où est-ce que ça menait. Peut-être que ça va évoluer au deuxième épisode.
À mon avis, que dans le troisième, puisque dans le troisième, il y a un personnage assez important dans l'histoire du Shield et des Avengers, un ennemi assez, voilà, le premier super vilain de la
Ça me
série qui
dérange
va
assez en
arriver.
fait. Le pilote introduit les personnages, mais j'aurais aimé qu'ils introduisent davantage l'enjeu de la saison
Voilà, je
1.
pense qu'ils ont
Oui.
voulu introduire les personnages dans le pilote, mettre en place l'ambiance de la série, et
Oui, mais c'est
ensuite,
mal fait.
peut-être que la suite va développer justement le potentiel de ce fil rouge.
Non, mais ils l'ont mal fait, ça, le développement des per... bah, le pseudo-développement des personnages, c'est mal fait. Et
Oui,
oui,
il n'y
et
a
moi
pas
j'ai
de.
peur que ça soit des stand-alone. Quand on voit le pilote, on a peur que ça soit ça, et ça donne pas
Bah,
envie.
ils ont annoncé que ça va être comment, un procédural. Il va y avoir l'affaire de la semaine, et en fond, il y aura ce fil rouge de la
Tu
Rising
vois?
Tide.
J'ai peur que ça fasse le syndrome Smallville où durant toute une majorité de la saison, tu avais du stand-alone, des petits bouts du fil rouge. Et résultat, ça se révèle à la fin de la série, mais j'ai l'impression que là, ça risque de faire comme Smallville en fait, que du standalone, des petits fils rouges par-ci et là, et puis juste à la fin, ça va bouger un peu et ça va.
Si c'est ça, c'est déception. Si tu veux du standalone, tu regardes
Ah,
Criminal
je
Minds, tu
déteste
regardes les
ça, voilà.
experts, tu regardes
Je déteste ça.
autre chose que ça.
MCS.
Je vais encore faire ma comparaison. Encore une fois, dans Euro, t'avais quand même le fil rouge qui était archi présent, ce qui était pour moi l'une des forces de la série. Donc j'aurais aimé retrouver ça quand même dans le. Enfin. Retrouver ça, non, parce que c'est qu'un premier épisode, mais en tout cas, j'aurais aimé que le premier épisode me fasse penser ça.
Après, Euro avait quand même commencé sur 8 ou 9 épisodes par nous sortir le méchant de la liste à barrer toutes
Oui,
les
c'est
semaines.
sûr. Là, je suis d'accord, mais enfin, il y avait déjà, on sentait déjà un gros truc venir. Alors que là, pour Agents of Shield, je sens pas le gros truc venir.
Eh bien, on espère que tu le sentiras venir dans les semaines à venir. D'autres choses sur le scénario et la réalisation?
Non, je pense qu'on a
Là,
bien détruit, hein,
on a
la
bien
série.
sorti notre pinceau noir pour dépeindre un truc. Il y a quand même des points positifs dans cet épisode, on peut peut-être en citer quelques-uns, si vous en vient à l'esprit.
Coulson?
La Whedon.
Coulson.
Coulson.
On peut parler aussi la musique pour le moment. Je l'ai trouvée, enfin, elle n'est pas du tout marquante.
Ah bon, j'ai eu peur que tu le mettes dans les points positifs là.
Ah non, 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 la musique. pour la musique, c'est une partie intégrante de la série, surtout pour des séries de genre. J'ai trouvé la enfin il n'y a pas de musique, il n'y a pas de
Bah
j'espère.
il y en a une si, parce qu'il y a un moment ça se il y a une espèce d'envolée il se passe rien.
Ouais,
Il
mais
se passe rien.
c'est moisi quoi, la musique est moisie, c'est pas marquante, il n'y a pas de thème qui ressort.
Bon, on avait quand même demandé les atouts de la série.
N'est-ce pas?
On est vite retombé dans les
Ouais,
dans
donc
ce qu'ils
l'agent
demandaient.
Coulson, Maria
L'agent
Hill.
Coulson.
Et bah, moi j'ai envie de dire, c'est malgré tous les défauts, ça reste fun avec à
Oui,
cause de
voilà.
Coulson et de l'humour hein, à la Whedon.
Comme j'avais dit à Arnaud sur Twitter, enfin où tu me l'avais dit ou je l'avais dit aussi, c'est fun mais c'est tout.
Voilà.
C'est fun, c'est tout.
C'est le seul élément positif.
Hormis les références et ce qu'on a dit, c'est fun et c'est tout, ça se regarde mais sans plus quoi.
Pour résumer, c'est fun, mais sans grandes ambitions pour l'instant.
Ouais, voilà.
C'est
C'est
pour
pas
ça que je me
ambitieux.
suis fait avoir, moi, au premier visionnage, le matin très tôt, où j'avais juste envie de kiffer et de voir l'agent Coulson et de passer un moment complètement sympa. Et voilà, j'ai vu que ça. Et c'est après que les défauts me sont apparus quand j'ai vu.
En fait, avec leur culte, il y a un tas de défauts, quoi. Tu regardes l'instant présent, tu trouves ça fun, passes un bon moment, mais avec leur culte, il y a énormément de défauts.
Et puis
Puis là.
sur le moment, j'étais content.
Sur le moment aussi.
Agents of S.H.I.E.L.D., la nouvelle série de Whedon. Et après, j'ai pris 10-15 minutes pour réfléchir après avoir vu le pilote et je me suis dit, ah ouais, mais tiens, il y a ça, il y a les personnages, il y a ça, c'est pas terrible non plus. Et au final, voilà, faut prendre du recul pour se dire, faut passer le côté Marvel, série événement, Whedon. Tu te dis qu'au final, si c'était pas eux, s'il n'y avait pas Whedon derrière, si c'était pas la série événement de
Ça
Marvel,
aurait été un nanar.
ce serait, voilà, peut-être pas un nanar, mais on aurait dit, bah, c'est nul.
Heureusement finalement qu'il n'y a qu'une semaine entre les deux épisodes, parce que si on continue à prendre du recul.
Oui.
Ouais.
Après, il y a un autre truc moi qui m'a quand même plu, c'est vraiment voilà, la touche Marvel dans le sens où on a vu des teasers, des trailers, des bandes-annonces, des extraits, des machins et tout ça. Et au final, comme pour les films, on n'avait rien vu. Dans le sens où on croyait, en voyant les bandes-annonces, avoir vu tout l'épisode, et en fait, on avait vu que très peu de choses.
Je te l'accorde. Ouais, on ne pouvait pas deviner ce qui allait se passer.
Pour la comparaison, dans le trailer de The Blacklist, on a vu
Ah
tout
oui, il y a tout le
l'épisode.
pilote. Ah,
Il y
j'ai
a
pas vu.
aucun, y a, on a vu tout l'épisode. Alors que là, oui, dans les trailers, on n'a pas vu tout. On pensait avoir reconstitué l'épisode, mais pas du
Non.
tout.
En fait, pas du tout. Moi, Extremis, je me le suis pris en pleine poire. J'ai pas.
Ah oui, non, ça c'est clair. Pour moi aussi, c'était une grosse surprise. Le Extremis, je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais absolument pas. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit des références, mais implicite, vraiment implicite, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des références aussi explicites,
Ah
notamment
oui.
Extremis, qui pour le coup, ce qu'on vit à Iron Man 3 percute tout de suite le lien.
Voilà.
Je m'y attendais pas, par contre, de ce point de vue-là, non, je m'y attendais pas.
Donc, bah, puisqu'on est dans les petites références comme ça, j'en ai repéré d'autres, hein. Évidemment, la bataille de New York. Le mot Avengers s'est prononcé, je
Oui.
crois, dans l'épisode.
Ah, possible, j'ai pas fait attention.
On entend aussi au détour d'une phrase, Journey into Mystery,
Ah
qui
oui, bâtard.
est une des séries phares de Marvel qui s'est arrêtée il n'y a pas longtemps. Le petit gag aussi sur le shield, le bouclier là dans le café avec Mike, qui comprend pas le mot de shield et qui fait le geste de Captain America là, qui met son bouclier devant lui. Voilà, référence au film aussi. Mike Peterson, c'est quand même un personnage qui vient de Marvel, qui vient des comics.
Ah oui?
Alors certes, c'est un personnage très sombre, très sombre, très obscur, qui a été recherché dans une histoire. Une petite mini-série en 4 épisodes qui s'appelait Slapstick, qui date de 1992. En fait, Mike Peterson, c'était le meilleur ami du personnage de Slapstick, voilà, en fait, qui est un personnage complètement anodin dans l'univers Marvel, mais ils ont vraiment été chercher, voilà, pour trouver un personnage qui existe. J'ai aussi remarqué qu'au moment où il saute de la fenêtre à la clinique, il dit une petite phrase, It is an origin story. C'est une histoire d'origine en fait.
Ouais,
Et
c'est
les origin story dans les
clin
comics,
d'œil.
voilà.
Ouais.
Et c'est en plus une phrase, puisque depuis du coup j'ai réussi à retrouver le fameux comic Slapstick. Et il tient un discours comme ça, le personnage, en disant qu'effectivement, en s'adressant au héros, que c'est une origin story. Je sais plus exactement s'il dit les mêmes mots, mais voilà, c'est une phrase qui rappelle les dialogues de la première apparition du personnage dans les comics. Et puis bien sûr, Extremis et Lola. Lola, on a vu sa cousine dans
Ah
le
oui.
film Captain America, à la Stark Expo. Il y a une voiture comme ça, un peu rouge.
Ah oui, la voiture qu'il essaye de faire de qu'elle vole et en fait que ça marche pas.
Et bah voilà,
c'est
et bah Lola, c'est sa cousine quelques années après, et bah elle, elle vole. Donc voilà, il y a plein de petites références comme ça, hein. C'est, j'en ai cité que.
Ah ouais! Ah, ça c'est. Donc tu le dis, effectivement, la référence est frappante. Je trouve ça ingénieux.
Donc voilà, plein de petites références comme ça qui font que du coup, moi c'est un gros point positif pour moi parce que ça s'inscrit vraiment dans un univers à la fois comics, à la fois cinéma et voilà, ça c'est réussi. Une note à l'épisode sur 10, Arnaud?
Malheureusement, je vais mettre un 6 sur 10.
6 sur 10, Clément?
J'hésite, je vais mettre un 5.
5 sur 10, Elvire?
Ouais. On va se dire un 5,5.
Un 5,5 pour
J'hésitais
Elvire.
J'hésitais entre 5 et 6, donc...
Moi, j'ai quand même envie de laisser une chance à la série de se rattraper, parce qu'un épisode, un pilote pas terrible peut donner une excellente série. J'ai quand même passé un bon moment, plein de références et tout ça, donc allez, je vais aller jusqu'à 7.
C'est généreux.
Ouais, je suis...
C'est mal.
Donc ça fait un petit peu moins, ça fait un petit peu moins que 6 de moyenne, quand même.
Voilà,
donc,
Ça pique.
Ouais, ça pique, ouais. Donc à voir pour les prochaines semaines, justement, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, Elvire?
Alors, pour le second épisode, ça s'appellera 084. Et dans cet épisode, en fait, on va voir l'agent Coulson et toute l'équipe aller au Pérou. On change totalement d'horizon. Et donc, ils vont enquêter sur un objet d'une origine inconnue. Et là-bas, ils vont rencontrer une femme qui fait partie du passé de Coulson, la commandante Camilla Reyes. Et d'après ce que j'ai lu, ça fera des étincelles entre les deux personnages. Donc,
Ça peut être
mais
marrant.
bon... Ça peut être marrant, mais j'espère que ça sera pas de l'histoire à l'eau de rose ou à...
Oh non, pitié.
Voilà.
Je pense que les étincelles sont dans l'autre sens, justement. Ça va être vraiment électrique, tendu.
Et donc moi, c'est l'épisode 2 et Arnaud, l'épisode 3.
Alors le troisième épisode qui s'appellera Via 7. Et donc là, on va retourner aux États-Unis, je suppose, puisqu'on va découvrir le brillant scientifique, le docteur Franklin Hall, qui est kidnappé. Et donc le SHIELD est face à une course contre la montre pour le retrouver. Et Sky, si on veut dire, est la seule issue pour l'équipe de Coulson pour retrouver le docteur quand tout leur plan tombe à l'eau. Et donc le docteur Franklin Hall est interprété par Ian Hart, qu'on a vu dernièrement dans Bates Motel. Et comme le deuxième épisode, le deuxième et troisième épisode seront écrits par Jed Whedon et sa femme, qui sont les co-créateurs de la série avec Joss Whedon.
Le personnage de Franklin Hall, je vous en parlais tout à l'heure, en fait, a une autre identité dans les comics. On verra. Bien, on en a terminé avec ce pilote et avec cette série pour le moment. On en reparlera évidemment la prochaine fois, voir comment tout ça évolue. On va quitter maintenant le format sestière et on va rejoindre le coin des Padawans. Donc le coin des Padawans pour cette deuxième émission, on s'attaque au gros morceau, comment débuter les comics. On va s'attaquer aujourd'hui à un des grands éditeurs américains. On a beaucoup parlé de Marvel dans le début de l'émission, donc là on va un petit peu changer, on va parler de DC. Pour commencer, je pense, Clément, que ça serait bien de présenter DC Comics.
DC, on appelle ça aussi la distinguée concurrence, en opposé à Marvel, qu'on nomme généralement la maison des idées. DC Comics a été créé en 1935 par Malcolm Wheeler Nicholson et est l'une des maisons d'édition majeures de comics aux États-Unis. La deuxième, on va dire, en termes de vente, parce que DC se ramasse un peu. Donc DC, comme Marvel, a des personnages phares. Donc bien sûr Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, ou encore une équipe aussi, la Justice League, et bien d'autres personnages. Donc c'est de la même trempe de Marvel, en mieux bien sûr. Et je ne suis pas du tout objectif. DC Comics avait été édité en France pendant pas mal d'années quand même par Panini Comics, et édité maintenant par Urban Comics depuis 2012, depuis que Panini a perdu les droits de DC. C'est beaucoup mieux comme ça.
Oui, puis ils sont arrivés à un bon moment, ils sont arrivés juste au bon moment.
Au très bon moment.
Juste au moment des New 52, donc parfait.
Exactement, voilà.
Et bah là, il y a beaucoup de mots que j'ai pas compris dans tout ce que tu viens de dire.
Laquelle ?
Bah surtout, les New 52, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un truc que je n'ai jamais entendu de ma vie, donc...
Les New 52, bah, en 2011, DC Comics était vraiment en perte de vitesse. Et donc ils ont lancé un event intitulé Flashpoint, donc qui va avoir une énorme répercussion sur l'univers DC, puisque ça, il va changer l'univers à jamais. Donc il va avoir un reboot complet de la série, tout repart à zéro. Et donc renouveau complet pour les équipes créatives en dans leur majorité, renouveau complet aussi pour les lecteurs, puisque ça va amener des nouveaux lecteurs, et j'en faisais partie.
Ouais, donc c'était en septembre 2011 où 52 nouvelles séries ont été lancées par DC. Donc tous les numéros 1 sont sortis en même temps en septembre 2011. Donc ça a fait 2 ans tout pile. D'où le nom New 52, les nouvelles 52 séries. Donc depuis, il y en a plein qui ont été annulées, elles ont été remplacées par d'autres, tant mieux pour certaines. L'objectif, ça a toujours été de maintenir le nombre de 52. Alors bien sûr, il y a
Un
des
peu le
choses.
bordel.
Ouais, c'était un petit peu le bazar au niveau des vagues, mais heureusement, il y a des séries qui avaient besoin d'être remplacées, qui étaient vraiment mauvaises, et même maintenant, il y en a qui.
52, ça fait pour quelqu'un qui connaît pas, ça fait un peu peur. Donc c'est quoi les incontournables? Parce que je pense pas que même dans toute une vie on ait le temps de lire les 52 et
Oh,
toutes les
si,
déclinaisons.
il y en a qui
Oui,
le font.
mais ceux qui veulent
Et
avoir une vie sociale et une carrière, je veux dire,
de l'argent surtout.
et de
Surtout
l'argent,
qu'il y en a qui veulent avoir de l'argent.
donc c'est quoi les incontournables des New 52 pour les rookies comme moi?
Comme on lit tous les trois du DC, Arnaud, Clément et moi, du coup je vais vous laisser commencer. Clément, tiens.
Oui, alors les incontournables, donc moi je lis bien sûr, je ne lis pas bien sûr tous les News 52. Donc bien sûr, en tant que grand fan, bien sûr il y a Batman, le Batman de Scott Snyder et de Greg Capullo qui fait un travail monstre. Notamment qui s'est illustré pour moi par l'un des meilleurs arcs de Batman depuis bien longtemps, qui était tout l'arc concentré sur The Court of Owl, donc la cour des hiboux en français. C'était dantesque, il y a eu un chapitre 5 pour moi d'anthologie qui est à lire absolument, qui a eu pas mal de répercussions. Il y a également le Batman et Robin de Peter Tomasi, donc qui est aussi excellent, donc là qui s'est concentré au début sur la relation Batman-Robin. Avec un numéro, je ne tairai pas le nom, qui n'est pas encore édité en français, qui a été un pur chef-d'œuvre. Je ne dirai pas pourquoi non plus, je vous laisse découvrir. On a aussi le Green Lantern. Là, par contre, Green Lantern, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, l'aspect du reboot est quand même discutable.
Oui, bah il n'y a pas de vraiment reboot, ça continue.
C'est toujours Geoff Johns au scénario bon depuis, il a terminé son run. On a eu aussi Earth 2, par James Robinson et Nicholas Scott. Donc qui était de la vague 2, qui est très bon aussi. Bon, même si je trouve que là, en ce moment, c'est un peu sur le déclin. Je trouve que ça stagne trop à mon goût. Bien sûr, il y aura en incontournable, une fois que ça sera sorti en VF, Superman Chained, le Scott Snyder et Jim Lee. Donc là, pour le coup, c'est à lire, c'est à regarder, c'est super. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je pense avoir tout dit. Donc les séries à éviter, il y en a pas mal. Superman, qui est moisi, mais comme c'est pas permis, ça a été complètement
Je
loupé.
confirme, je confirme, je me suis
C'était
renouvelé.
juste ignoble. Que du texte, c'était chiant. En autre série à éviter, Supergirl, non, parce que c'était quand même pas mal. Alors, j'ai pas du tout aimé le Batman Dark Knight de Finch. J'ai vraiment pas aimé le début. Apparemment, ça s'est amélioré, mais je ne sais pas plus que ça. Et sinon, comme je lis globalement que des bons titres, j'aurais pas d'autres trucs à éviter. Apparemment, il y a eu Stormwatch, mais qui est arrêté, il me semble. Qui était pas terrible. Après, je vois pas, j'ai pas d'autres séries qui me viennent en tête. Parce que la plupart que j'ai commencé, je les continue.
Moi,
Bon,
je
après, il y a des
rajouterais
séries.
Flash.
Arnaud, oui.
Flash? Oui, moi, j'ajouterais Flash qui m'a. Je rajouterais Flash qui m'a beaucoup déçu. Au départ, les premiers numéros étaient très intéressants, puisque là, contrairement à par exemple à Batman qui était dans la continuité, avec Flash, on le prend vraiment depuis le début. C'est vraiment un reboot. Et donc, ça permet de rentrer dans l'univers du personnage. Mais plus on avance dans l'histoire, les scénarios se sont un peu éparpillés dans tous les sens et ça devient un peu ennuyeux et un peu difficile à suivre réellement.
Ah écoute, moi au début j'en avais entendu que du bien, j'avais entendu
Au
aussi
début,
du bien
oui.
au
Au
tout
début,
début.
oui, c'est très
Ouais,
bien.
bon, tu veux peut-être continuer, parce que
Dans des
sinon
séries qu'il faut lire, moi j'ajouterais Aquaman de Geoff Johns,
Oui,
vraiment,
effectivement, oui. Il a une très bonne
qui
réputation.
remet au goût du jour un personnage qui a souvent été
Elle
décrié.
est plus has-been, quoi.
Bah, plus du tout. J'adorais voir un
Ouais.
film sur lui. Bref.
Et
Donc
sinon, il y
Batman, comme
avait.
tu l'as dit, il y a la Justice League aussi, et Batgirl de Gail Simone.
Ouais, Arnaud, je suis étonné que tu nous parles pas de Batwoman.
J'allais en venir juste après. Je voulais encore parler de Nightwing, parce qu'en plus, il y a un crossover avec la cour
Ouais,
des hiboux.
effectivement.
Et bien sûr, comme tu viens de le dire, Mathieu, Batwoman, vraiment par son scénario génial et ses planches vraiment recherchées. Je crois que ça doit être l'un de mes comics les plus préférés. Franchement, si vous ne l'avez jamais lu, juste ouvrez un tome de Batwoman et regardez les dessins magnifiques, c'est sublime.
Donc ouais, Batwoman, pour revenir sur ce qu'on avait dit dans la première émission, donc on a parlé du changement d'équipe, là, du fait que l'équipe actuelle a été remerciée. Par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, il y a quand même une avancée, c'est que ils n'auront même pas l'occasion de finir leur histoire puisqu'ils ont été débarqués et que dès le prochain épisode, ce sera les nouveaux créatifs qui seront dessus.
Ok, donc ça va devenir une déception, finalement.
Exactement, tu n'auras jamais la fin de ce que Williams 3 voulait. Sur les autres séries incontournables, bah évidemment Batman, évidemment Earth 2, je rajouterai Wonder Woman par Azzarello et
Oui,
Cliff
apparemment qui
Chiang.
est très bon.
Ouais, c'est vraiment ancré profondément dans la mythologie grecque, c'est un peu à part par rapport aux autres séries, c'est un peu déconnecté, c'est dans enfin voilà, Wonder Woman elle est dans son coin et vraiment elle est intéressante. Animal Man et Swamp Thing aussi, des séries un peu dark qui sont très très
Swamp
liées.
Thing, c'est Snyder, non?
Ouais,
Ouais. Non,
c'était
c'est
Snyder au
Snyder.
début. Au départ,
J'ai oublié
c'était...
aussi, j'y pense, je vais te couper. Dans les séries incontournables, j'en ai oublié une, donc qui a été rebootée. Justement, c'est Green Arrow de Jeff Lemire. Là, qui a rebooté le personnage, qui l'a complètement modernisé, c'est juste excellent. Sans compter les dessins qui collent parfaitement à la série, les dessins sont bluffants,
Ah,
c'est
d'ailleurs...
génial.
D'ailleurs, Urban ne s'y trompe pas, hein, puisqu'ils vont le publier bientôt dans leur
Ah mais
titre
c'est
kiosque.
génial, il met toute une intrigue en place, tout un univers à l'archet vert, c'est moi je trouve ça excellent, c'est pour moi là actuellement c'est l'un des titres que je préfère avec Batman. J'ai un coup de cœur quand même, je ne sais pas si Urban a... je crois pas qu'Urban a prévu de l'éditer, donc t'as la série Talon, donc
Ouais.
qui
Non,
Scott
ils
Snyder.
n'ont pas parlé.
Non, Scott Snyder a un peu le nez dedans, t'as aussi son protégé qui est James Tynion, je sais pas
Fort.
comment ça se dit en anglais,
Fort.
Thor. Qui fait du très bon, qui prolonge complètement la mythologie de la cour des hiboux. Franchement, le titre, je le trouve vraiment excellent.
Du côté des séries à éviter, Batwing, une purge sans nom.
Je ne comprends pas l'utilité du personnage.
L'Arflies qui a commencé il n'y a pas longtemps, même chose.
Donc voilà, on a un bon aperçu maintenant des séries incontournables dans les New 52. Et sinon, est-ce qu'il y a des collections en VO qui sont vraiment destinées aux débutants dans les comics?
Alors ouais, il y en a plusieurs, enfin il y en a surtout deux en fait. Il y a une gamme qui est sortie il n'y a pas longtemps en France, qui est la gamme Earth One en VO, Terre 1 en français. C'est des albums qui réinventent complètement l'histoire des personnages. Donc ça a été fait pour Batman et Superman. Donc
Superman
là,
qui est très bon.
ouais, le Batman aussi. Et on repart sur des complètement nouvelles histoires. Les personnages, par exemple pour Batman, on connaît tous Alfred, voilà. Son majordome, il est complètement autre chose dans cette série. C'est vraiment des histoires déconnectées. C'est voilà, c'est un nouveau Batman comme il aurait pu être si on l'avait inventé en 2012.
Donc c'est une sorte
D'accord.
d'univers alternatif.
Ouais, voilà.
Et Superman, c'est pareil, hein.
Oui, c'est exactement la
Superman,
même
j'ai plus
chose.
trop. Je l'ai relu un. Enfin, je l'avais lu il y a quelques mois à la sortie de Man of Steel. J'étais dans ma phase Superman. Je sais que j'avais adoré parce qu'ils avaient complètement. Ils avaient réussi à revoir les origines de Superman. Et Dieu sait que des fois, certains éléments des origines de Superman ont été revus quand même pas mal de fois. Et c'est vrai que la gamme Earth One est excellente pour les personnes qui veulent se mettre à lire des comics. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est des origin story d'un univers alternatif, mais c'est
Ouais,
clairement à conseiller.
donc voilà, faire attention quand même, univers alternatif, donc ça veut dire qu'on
Ouais.
retrouvera pas forcément tout si on va lire un Superman classique après. Autre chose pour débuter, bah, c'est toutes les séries Year One, donc année 1 en France. Batman Year One qui prend l'arrivée de Batman de Bruce Wayne à Gotham City, comment il est devenu Batman, les premiers pas de Gordon dans la police. Il y a un Green Arrow qui va arriver en France bientôt, donc voilà, c'est
Est très
vraiment.
bon apparemment.
Ouais, c'est vraiment les histoires de base, quoi. Comment les héros, les personnages principaux sont nés.
D'accord, il n'y a pas de prérequis à la lecture, c'est
Non,
vraiment.
aucun. Tu peux, que ce soit les Earth One ou les Year One, tu peux le lire sans avoir rien lu du personnage, tu comprendras sans. sans problème. C'est vraiment fait pour ça. C'est des portes d'entrée, voilà. Et puis bah bien sûr, hein, il y a eu un relaunch il y a 2 ans, tout est redémarré à zéro, donc tous les premiers tomes des nouvelles séries là, sauf pour Green Lantern parce que là c'est
Ouais.
ils sont pas repartis du tout à zéro, hein. Ils ont gardé tout le bagage et a continué sur sa lancée. Mais pour toutes les autres séries, quasiment, on peut prendre les premiers tomes des New 52, donc Connexion Renaissance en France. Il n'y a aucun problème, pareil
Et
pour se lancer.
je peux ajouter, là, il y a DC qui va commencer une nouvelle collection en VO. Je ne sais pas s'ils vont suivre en VF. Donc, qui s'appelle DC Essentials. Donc, ça va être à 2$, je crois, le titre.
1 dollar
Il...
même.
Combien?
1 dollar même, je
Ouais, un
crois.
dollar. Et bah, comme le dit le truc, hein, ça va être les essentiels de DC. Donc, je pense que ça peut être pas mal.
En fait, les Essentials, c'est des numéros donc à 1 dollar. Ils vont en sortir 3 ou 4 par mois à partir d'octobre. Et c'est des numéros 1 des grandes séries DC. Donc, il va y avoir le Justice League numéro 1 qui va ressortir, le Green Lantern numéro 1 qui va ressortir. Donc, ça sera l'épisode qui sera réimprimé. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'après l'épisode, il y aura une section bonus avec en gros un catalogue de toutes les histoires
Ah, c'est
qui sont
génial.
essentielles. Autour de la série, quoi, autour de ce qui est présenté dans le numéro. Ça permet au nouveau lecteur de mettre le pied dedans et de savoir quoi lire après.
Et ça arriverait quand alors?
Ça arrive en octobre. Alors, je sais pas exactement quels titres sortent en
C'est
octobre,
très génial.
mais en octobre, il y en a 4 qui vont sortir.
Y
D'accord.
a Action, il y a Action Comics, il me semble.
Peut-être.
Après le reste, je sais plus.
Il doit y avoir aussi le Batman numéro 1 qui va ressortir, et puis.
Sûrement.
Et puis
Logiquement.
des sorties Vertigo des séries un peu cultes, je crois que le Fable numéro 1 est prévu, enfin voilà.
Et donc là, justement, si je veux commencer les comics DC au 30 septembre 2013 en kiosque, je vais vers quoi,
Ah bah
concrètement?
pour le moment en kiosque, ce qui est bien en France, c'est qu'il y a 3 magazines, pas plus. Il y a Batman Saga, donc c'est une sélection de séries autour de Batman. DC Saga, qui regroupe des personnages de la Justice League et la Justice League. Et Green Lantern Saga qui regroupe tous les titres autour de Green Lantern. Donc voilà, c'est 3 univers qui sont dans chaque magazine. C'est 5,60 € par mois. Et il y a 5 ou 6 séries à chaque fois dans chaque numéro. Donc le choix est assez simple et c'est assez clair comme offre, finalement.
Donc là, les trois que tu m'as cités, on les a à 4,60.
5,60.
5,60.
5,60
5,60.
par numéro, ouais.
Et ils sortent
Tous les mois.
tous les mois. D'accord. Pas toutes les semaines, c'est tous les
Tous
mois.
les mois en fin de mois. En général, c'est le dernier
Ça
vendredi du
dépend
mois.
des. Ça dépend. Parce qu'ils
Bah,
ont
ça va
changé
changer.
dernièrement.
Voilà, ça va changer. Bah, si tu veux nous en dire un peu.
Oui. Et alors, à partir de janvier 2014, Urban va faire des changements dans ses kiosques. Donc, ils vont créer un nouveau magazine kiosque qui s'appellera Superman Saga. Et donc, il reprendra toutes les séries liées à l'homme d'acier. Donc, il y aura Superman Unchained, Superman, Action Comics, Batman Superman, et plus tard, on retrouvera Supergirl. Et donc, ils font ça parce que depuis plusieurs mois, les séries de Superman ont disparu de DC Saga pour rejoindre DC Saga hors série, qui raconte le crossover Hell on Earth. Et donc, ils se sont dit que ce serait plus intéressant de déplacer toutes les séries de l'univers Superman dans son propre kiosque. Et donc à partir de janvier 2014, on aura Superman Saga, qui sera tout nouveau. Dans DC Saga, qui sera renommé Justice League Saga, on retrouvera donc la Justice League, la Justice League of America, la Justice League Dark, Flash, et il y aura l'apparition de Green Arrow. Et par contre, il n'y a pas de changement pour Batman Saga ni pour Green Lantern Saga.
Vous avez un avis là-dessus, Arnaud, Clément, vous en lisez, vous, des mags, chez Urban?
Moi, alors, comme je lis de la VO, par souci d'argent, bien sûr, je n'achète pas de VF en mag. Puis j'ai une grosse dent, moi, contre le système, enfin la manière dont ils éditent les comics en France au niveau du kiosque, donc ce qui fait que je n'en lis pas. Après, sur le contenu des mags, bon, ça reste cohérent, hein. Bon, le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont mis Earth 2, Terre 2, dans Green Lantern. C'est un truc que je ne comprends pas.
Je comprends pas non plus.
Je ne comprends pas la logique du truc.
Peut-être parce qu'il y a Alan Scott dedans. tout simplement.
Peut-être,
C'est peut-être la seule
mais je
excuse.
comprends pas. Mais sinon, non, après, Urban fait du très bon boulot, donc on peut. Urban fait du très bon boulot, quoi qu'on en dise.
Arnaud, tu lis lesquels, toi?
Moi, je lis Batman Saga, DC, et DC Saga.
Ok.
Et par contre, ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils foutent Batman Superman dans Superman Saga. J'ai un peu de mal à voir pourquoi ils mettent cette série Batman
Ils ont déjà mis
Superman.
Batman Superman?
Non, ça va
Non,
arriver
non,
dans
ça va
le.
être
Ah, ça va arriver, d'accord.
Dans
Bah,
le
c'est
Superman
récent, quand
Saga.
même.
Dans le Superman
D'accord.
Saga en janvier. Bah, parce qu'il y a Superman, donc du coup il a sa place dans le magazine. Et puis en plus, comme il y a Batman, ça permettra peut-être d'en vendre un peu plus, c'est tout.
Mais est-ce que la série est bonne?
Oui.
Apparemment, oui.
C'est excellente. Donc bah, voilà, Elvire, un petit point sur le kiosque.
Voilà, et pour ceux qui ont encore un peu peur d'aller en kiosque ou qui ne savent pas encore maîtriser ça et qui préfèrent des lieux où on a plus l'habitude d'aller, comme quelque chose qui commence par F et qui finit par Hack, par exemple, si on veut aller dans ce genre de librairie, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout? Je suppose que c'est pas du
Alors,
tout.
c'est la même chose et pas la même chose en même temps. La librairie a un gros avantage pour les débutants, c'est que les kiosques là en ce moment chez Urban, ils en sont au numéro 17 ou 18, je sais plus, 18 je crois aujourd'hui. Ça fait un peu peur de commencer par un numéro 18. Donc du coup, la librairie est vachement bien parce qu'il y a plein de tomes 1 ou de tomes qui ne sont même pas numérotés. Donc déjà, c'est un avantage. Et il y a des bouquins qui sont édités par Urban qui sont vraiment des références pour les débutants. Enfin, franchement, le boulot qui a été fait sur ces livres, c'est exceptionnel. Donc il y en a 4, c'est les anthologies. DC Comics Anthology, c'est une sélection des histoires clés de toute l'histoire de DC Comics. Il y en a une vingtaine. Ça commence dans les années 30 et on va jusqu'au premier numéro de Justice League de 2011. Et donc voilà, il y a une vingtaine d'histoires et à chaque fois accompagnées de quelques pages pour expliquer. Pour expliquer qui sont pourquoi cette histoire est importante, quel grand personnage arrive, en quoi cette histoire elle va marquer la suite de l'univers DC. Enfin, y a vraiment un boulot éditorial autour de ce livre qui est vraiment génial. Moi, si je devais, voilà, quelqu'un qui connaît pas les comics et qui veut commencer, je lui offre sans problème une anthologie. C'est vraiment et ça a d'ailleurs eu un gros succès en librairie et du coup ils ont décliné ça. Ils ont sorti cette année la Superman Anthologie. Donc pareil, voilà, quelques histoires clés de l'histoire de Superman qui permettent vraiment d'avoir un balayage en un seul volume de toute la continuité du personnage et on sait vraiment l'essentiel, tout ce qu'il y a à savoir sur lui en un seul bouquin. Et en décembre, il y a Batman Anthology qui arrive. Celui-là, je l'attends avec impatience parce qu'il y a vraiment des bons morceaux qui sont dedans et ça va être intéressant. Et après, s'il y a des amateurs de comics un peu old school, il y a une anthologie consacrée à un artiste qui est sortie, c'est la Jack Kirby Anthology. Voilà. Sinon, une autre petite collection qui est sympa aussi, c'est la collection Signature. Donc, c'est tous les, par exemple, Grant Morrison présente Batman. Ça va être en 8 tomes, je crois, toutes les histoires de Batman écrite par Grant Morrison. Il y a aussi Geoff Jones présente Green Lantern, où là il y a tout le run de Geoff Jones sur Green Lantern, et voilà. Et du coup, pour quelqu'un qui ne saurait pas par où commencer, les anthologies elles sont toutes à 22,50 € et elles font à peu près 300 pages. C'est vraiment des bons morceaux, et 22,50 € franchement pour 16 histoires, 20 histoires selon les anthologies, c'est quand même pas mal. Les Green Lantern, enfin les collections signatures, c'est entre 15 et 17,50 je crois. Pour les plus chers, peut-être il y en a un ou deux à 22,50 mais pas plus.
C'est pas
Mais
plus
bon,
cher parce qu'il y a quand
pour.
même 300 pages.
Non, il y a beaucoup de pages, oui, il y a pas mal de matériel.
Mais bon, pour des novices, déjà mettre 22 euros d'affilée
Oui.
dans un truc qu'on n'est pas forcément sûr d'aimer,
En fait, les
c'est.
anthologies, la collection anthologie, faut la prendre à la fois comme des histoires cultes, mais un peu aussi comme une encyclopédie. C'est vraiment, enfin, tout le background est
Oui.
expliqué. C'est plus que de la BD, quoi. C'est vraiment un livre.
D'accord. Après, niveau prix, il y a certains, bah, comme la grande chaîne que j'ai citée sans la citer en début. En Belgique, par exemple, on a 20% sur tout ce qui est BD et comics. Donc, c'est à savoir pour les Belges qui nous écoutent
Voilà.
ici. Donc, ça, 20% sur 22 euros,
Ça fait tout de suite 4
ça peut
euros,
être.
donc
On en
Voilà.
rêve en France.
C'est clair.
Ce serait bien d'avoir
Enfin,
ça.
il faut être membre FNAC, mais bon, c'est gratuit. Donc, enfin, bref.
Ok, donc voilà pour la librairie, les trucs vraiment pour destinés spécialement à ceux qui connaîtraient pas. Voilà, moi je vois bien ces trucs-là. Et puis aussi tous ceux qui sont accompagnés d'un DVD Blu-ray. Il y a pas mal d'histoires importantes qui sortent et on a la version DVD et Blu-ray du film animé qui correspond. Donc c'est toujours sympa.
Effectivement. Très bon rapport qualité-prix.
Ouais. Voilà donc pour la librairie. D'autres choses à voir sur DC? D'autres questions qui viendraient?
Non.
Bien. Alors dans ce cas, Elvire, parce que tu as été notre Padawan sur ce coin des Padawans cette semaine, je te propose de faire un petit bilan de la séquence. Qu'est-ce que l'univers DC t'inspire maintenant que t'en sais un peu plus? Est-ce que t'as envie de découvrir des choses? Il y a des titres qui ont peut-être retenu ton attention, des personnages, je sais pas.
Bah, je m'y connais pas en général en comics, mais DC encore moins. Je connaissais plus, connaissais entre, mettais plein de guillemets à connaissais Marvel, peut-être parce que c'est celui qui est plus
Bah c'est le plus.
plébiscité et le
Ouais.
plus
C'est le plus
on le voit à la
exposé. Non.
télévision, le plus exposé, on
Bah
va dire.
voilà, oui, c'est le plus exposé, c'est clair.
Heureusement ou malheureusement, selon les envies de chacun. Et donc oui, donc moi c'est surtout parce que pour moi DC ça se résumait à Batman.
D'accord.
Et c'est tout. Superman, je le voyais dans aucun des deux. Pour moi, c'était un être hors Marvel, hors DC. Je sais pas où je le voyais, mais pas chez DC. Donc oui. Après, ce que j'ai envie, et bien sûr, moi, c'est ce qui a surtout retenu mon attention, c'est ce que tu m'as expliqué, ce que vous avez expliqué sur les Earth One et les Year One. Moi, apprendre les origines des héros, c'est ce qui m'intéresse en fait. Savoir comment on passe du commun des mortels, entre guillemets, à super-héros. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais, comment dire, approfondir. Puis surtout, bah, les trois titres qui étaient en kiosque à 5,60 € par mois pour quelqu'un qui veut commencer, c'est pas cher payé, je veux dire. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce que vous aussi, vous avez mentionné en octobre, que c'est les numéros 1 qui reviennent. Je pense que là, c'est vraiment le bon moment pour se lancer dans l'univers d'ici et donc voilà, donc oui, ça, ce que vous m'avez dit m'a vraiment donné envie de connaître l'univers, de passer au-delà de Batman, de connaître par exemple Wonder Woman, que je connaissais bah, de nom comme tout le monde. Donc voilà.
Ok, eh bien on a terminé avec ce coin des Padawan, on en a en même temps terminé avec cette deuxième émission, un peu plus longue que la première, je sais pas combien de temps ça va donner au montage, mais c'est sûr ça sera plus long. On se retrouve nous dans 2 semaines, d'ici là vous pouvez nous retrouver sur le site comicstories.fr, vous pouvez nous contacter via Twitter, @comicstories, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook ou nous contacter par mail, redac@comicstories.fr. La prochaine émission, donc dans 2 semaines, le dimanche 13 octobre, et on s'intéressera à une histoire de rôdeur. D'ici là, bonne lecture, bonne série, et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.